Vous vous souvenez de quoi j'avais prêché la dernière fois? Pour ceux qui étaient là, comment? J'avais parlé d'Isaac. Isaac et Rebecca, qui étaient quelque part, comme vous voyez dans les Écritures, je dirais à tous les passages, particulièrement ceux de la Torah, la plupart des personnages que vous avez, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, sont l'image du Messie à venir. Et donc Israël était l'image du Messie et Rivka était l'image de l'épouse. Bon, si vous voulez entendre la prédication, elle va être sur Internet. Elle n'y est pas encore, mais elle va être sur Internet. Il y a une autre image que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous connaissez tous, hein, pour ceux qui ont été à l'école du dimanche, c'est Yosef, Joseph. Vous connaissez tous l'histoire ou je vous la raconte? Non? Bah non, parce qu'il y a quand même 4 chapitres à lire. Ça dépend si vous avez ceux qui ont le poulet sur le feu, c'est pas la peine. Je vais quand même parler de Yosef. Alors Yosef, déjà je le dis en hébreu, son nom veut dire « et il ajoutera ». Voilà. C'est Rachel, au moment de la naissance de Joseph, donc je vais reparler en français, la naissance de Joseph. C'était son premier fils, et elle a demandé à Dieu, ben c'est vrai, et il rajoutera encore un autre fils. Et vous savez que le deuxième fils, c'est Benjamin, Benjamin, qui était donc son dernier fils, puisqu'elle est décédée en couche à la naissance de Benjamin. Donc Joseph était le premier-né, quelque part était le premier-né de Rachel. Mais quelque part aussi le premier-né de Jacob. Il y avait un autre premier-né de Jacob, c'était Ruben. Et donc il y avait deux fils aînés, quelque part. Bon, dommage, il avait plusieurs femmes, hein, mais il y avait deux fils aînés de ces femmes officielles. Lequel avait le droit d'aînesse ? Puisqu'on parlait des patriarches avec le droit d'aînesse, la bénédiction, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose, vous connaissez, je vais vous rappeler l'histoire de l'école du dimanche que vous avez tous eue. Joseph avait fait des rêves où tous ses frères et ses parents se prosternaient devant lui. Au niveau, je dirais, humilité, c'est cool. Encore plus quand tu viens t'en vanter auprès de tes frères en disant ouais, attendez, un jour vous allez vous prosterner devant moi. Forcément, ça ne plaît pas. Hein. Autre chose qui ne plaisait pas, c'est que Jacob était. C'était vraiment son fils bien-aimé. Et il faisait savoir de manière visible. Jacob a fait à Joseph une tunique multicolore. Les autres, parce qu'ils ne voyaient que par Joseph. Pour Jacob, le premier-né, en fait, c'était Joseph, c'était pas Ruben. C'était Joseph parce que lui, il voulait Rachel. Il n'a jamais voulu de Léa. Donc le premier-né de Rachel, c'est Joseph, c'est pas Ruben. Et en plus, il s'est passé une chose terrible dans la famille qu'on peut lire dans 1 Chronique 5, pour ceux qui ne savent pas. 1 Chronique, comme quoi la Bible ne cache rien. Les fils de Ruben, premier-né d'Israël. C'est vrai que Ruben était le premier-né de Jacob, d'Israël. Car il est le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Fils d'Israël, toutefois Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui était issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Qu'a fait Ruben ? Il a couché avec Bila, une des quatre femmes de Jacob. Et à cause de ça, il fut déchu, comme Ésaü fut déchu aussi, du droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse est revenu à Joseph. Mais en remplacement de Ruben, Yéhouda, a pris de la puissance parmi ses frères, car de lui sera la royauté, de lui viendra la promesse du Messie. Histoire de famille assez compliquée, n'est-ce pas? Alors on va revenir un peu à Joseph. Donc c'est dans, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Donc je ne vais peut-être pas prendre à partir du début. Si, je vais le prendre, je vais tout lire. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph apportait à leur père leurs mauvais propos. En plus, il était rapporteur. Un sale gosse, quand même. Le mec orgueilleux, le chouchou du papa. Et en plus, il raconte tout ce que les autres disent derrière. Sale gosse. Joseph, ouais, il rapportait leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler qu'avec amitié. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Donc là, il parle de son songe. Je vais aller un peu plus loin, parce que sinon on ne va pas... Et un peu plus loin, donc vous voyez que c'est quand même la haine entre les frères. Entre Joseph et le reste de ses frères. Et un jour, les frères de Joseph étaient partis vers Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, alors eux ils travaillent, mais Joseph est avec son père encore. Verset 12. Donc ils travaillent, mais Joseph... Et je suppose Benjamin, qui devait être jeune, puisque Joseph avait 17 ans, donc Benjamin devait être encore plus jeune. Il ne travaillait pas avec, gardait pas les troupeaux. Et Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et les trouva à Dothan. Alors je m'arrête là. Est-ce que ça vous rappelle un autre passage de la Bible? Ce passage-là. Est-ce que c'est arrivé une autre fois? Oui. Vous avez le droit, hein, c'est interactif. Manuel. Hein? David. Tout à fait. Joseph. Israël envoie Joseph à la rencontre de ses frères. Isaïe a envoyé David pour aller voir si tout allait bien. Et le point commun, c'est qu'il y avait la même animosité entre David et ses frères, enfin ses frères aînés tout au moins. Vous pouvez le lire pour David, vous pouvez lire le passage dans 1 Samuel 17-17. Et c'est là que David va sur le champ de bataille. Bon, là, c'était pas pour garder les troupeaux, mais c'était pour le champ de bataille. Et c'est là qu'il a vu Goliath. Et qu'il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il est temps de faire quelque chose. Donc, il y a une similitude entre la vie de Joseph et la vie de David. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous connaissez l'histoire. D'abord, les frères, quand ils le virent de loin, et avant qu'il fût arrivé, même, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, nous verrons que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il lui dit, « Non, on lui ôtera pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang. Jetez-les dans cette citerne qui est dans le désert et ne mettez pas la main sur lui, car il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » Donc on voit que Ruben, il était moins... C'était encore le fils aîné, donc c'est lui qui dirigeait. Il n'était pas d'accord sur cette chose-là. C'est-à-dire de tuer Joseph, non, il ne voulait pas. Et en fait, son but, lui, s'il y en a un innocent parmi les 10, c'est bien Ruben. C'est que lui, il a dit, on va le mettre dans la citerne, histoire de lui donner une bonne leçon. Et puis moi, ce soir, je vais le reprendre et puis je vais le ramener vers son père pour le délivrer de ses frères qui avaient vraiment la haine contre lui au point de vouloir le tuer, quoi. Au verset 23, « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrtes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair et notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de sa citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus là. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et lui dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, qui lui faisait dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et porta longtemps le deuil de son fils. C'est pas cool quand même. Hein. C'est pas cool, mais il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Qui a eu l'idée de vendre Joseph aux Ismaélites ? Judas. Et on verra pourquoi je dis ça. Parce qu'on verra les passages suivants de la Bible. Les Ismaélites, c'est quoi ? C'est les enfants d'Ismaël. C'est les cousins, donc. Parce que leur arrière-grand-père, c'est Abraham. C'est pas si loin que ça, c'est-à-dire c'est leur arrière-grand-père, quoi. Donc ils ont vendu... C'est resté dans la famille, quoi. Ils ont rendu aux Madianites, qui étaient des fils d'Abraham aussi, Joseph, qui eux ont eu aussi le péché d'aller le vendre en Égypte. Donc c'est pas que la famille Jacob qui est en cause là. Il y a aussi la famille d'Ismaël. bon, ils auraient pu dire, bah attends, qu'est-ce que vous nous faites là ? On est cousins, quoi. C'est pas à nous. Bon, après. Donc voilà, Joseph est vendu en Égypte. On va faire un saut dans l'histoire. Je vous raconte pas l'histoire de la femme de Potiphar, où il va en prison. Là, en prison, il est béni par Dieu. Il devient le chef de la prison. Joseph avait un don particulier du Saint-Esprit, c'était de savoir interpréter les rêves. Il a interprété les rêves de deux prisonniers qui se sont réalisés à la lettre, etc. etc. Et on saute directement à Genèse 42. Avant, bon, il a effectivement interprété un rêve à Pharaon. Et du coup, grâce à cette interprétation, il est devenu premier intendant, premier ministre. C'est-à-dire la personne la plus importante après le pharaon. Là, il est monté en grade, hein, il a eu de la promotion. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il devait, en fait, il avait fait le rêve qu'il allait avoir 7 années de grâce, puis après 7 années de disette. Et donc Joseph l'a prévenu pharaon, enfin Joseph, par l'Esprit de Dieu, a réussi à dire à Pharaon, voilà ce qui va se passer en Égypte. Pendant donc, cette année, les récoltes, ça va être super abondant, faites des réserves, parce que les 7 années suivantes, il n'y aura plus rien. Ça va être chaud. Et donc, on arrive à 42, Genèse 42. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a eu la disette a commencé dès la première année. Alors, la disette était mondiale. Hein, elle n'était pas que sur l'Égypte. C'était vraiment une catastrophe. Il y avait déjà le réchauffement climatique à cause de nos voitures. Déjà à cette époque-là, parce que pendant 7 ans, tout a été cramé. Il n'y a pas eu de pluie. C'était vraiment la catastrophe dans les récoltes, à la fois en Égypte, en Afrique, en Canaan. Et même tout ce qui était le Moyen-Orient était atteint. Et donc Jacob, qui était à Canaan, toujours à Sichem, il dit, bah, eux, ils n'avaient rien non plus, ils n'avaient plus rien à donner. Ils ont dit, bah, on apprend qu'il y a encore du blé en Égypte, allez-y, allez acheter du blé. Et donc les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte. Et au verset donc 42:6, c'est la rencontre depuis tant d'années entre Joseph et ses frères. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph virent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et il les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla très durement et il leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan. » pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et là, il le voit très clairement que tous leurs frères sont prosternés devant lui. Et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon seigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. Nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Il répondit, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph le dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère, que vous ne sortirez pas d'ici que votre jeune frère ne soit point venu, ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours dans une prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous, Partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi, et ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Alors c'est marrant parce qu'ils parlent de Joseph, mais ils n'ont pas fait la relation avec la personne qui est devant eux. Mais ils savent que ce qui leur arrive là, c'est une conséquence de ce qu'ils avaient fait avec Joseph. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point de crime envers cet enfant. Vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Joseph parlait égyptien, mais il connaissait l'hébreu. Mais il ne l'avait pas dit. Donc il faut se méfier, hein, quand vous êtes devant quelqu'un d'étranger, ne dites pas n'importe quoi, parce que des fois, il comprend. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint ensuite et leur parla, puis il dit, il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Je continue un peu plus loin. Donc Joseph, il les laisse partir. Il leur donne du blé. Et il, comme c'est sa famille quand même, il leur donne l'argent. Il remet l'argent dans leur sac de blé, ce qui va les effrayer encore plus. Mais bon, en fait, il veut rien. Quelque part, il a déjà de la bonté vis-à-vis de ses frères. Il retourne voir Jacob. Jacob est atterré parce que du coup, Siméon est resté en Égypte. Il leur dit, on n'y va plus, hein, c'est plus la peine. C'est bon, il y en a deux en moins. Donc ils ont tenu avec les réserves. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il a fallu y retourner. Et ça a été vraiment un crève-cœur pour Jacob d'envoyer Benjamin avec eux. Parce qu'il ne voulait absolument pas se séparer de son dernier fils, le dernier fils de Rachel. 43 maintenant. 43 au verset 29. Je fais des sauts, hein, dans l'histoire. Mais si vous voulez la relire entièrement, cette histoire, elle est magnifique. Vous pouvez la relire chez vous. Ça, c'est les devoirs. Joseph leva les yeux. Donc, ils reviennent donc en Égypte, avec cette fois-ci Benjamin. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Et après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » Et on servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph, c'est vrai, c'est étonnant parce qu'il les a placés par tranche d'âge. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas la famille, c'était quand même très étonnant. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter les mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour Benjamin. Ils s'égayèrent et burent, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Il a redonné du blé pour rentrer chez eux. Et là, Joseph, il voulait vraiment éprouver la repentance de ses frères, et particulièrement de Yehuda. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa coupe dans le sac de Benjamin, la coupe dans laquelle il boit, et ça c'est un symbole très important en Égypte. Si tu voles la coupe du pharaon ou de quelqu'un, c'est vraiment un crime de lèse-majesté, hein, c'est punissable de mort. Et il a mis la coupe, il a fait mettre la coupe dans le sac de Benjamin. Bien sûr, ça n'a pas tardé, mais ils sont partis sans s'en rendre compte. Et ils ont retrouvé la coupe dans le sac de Benjamin. Donc, ils sont revenus dardard chez Joseph. Et là, c'est là qu'il y a le dénouement. Au verset... Je vais redescendre un peu plus bas. Donc, Genèse 44, verset 18. Deux personnages. Judas d'un côté, Yehuda d'un côté, et Joseph de l'autre. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit: « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, que sa colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant: « Avez-vous un père ou un frère ? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu l'as dit à ses serviteurs, faites-le descendre vers moi, que je le vois de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, notre père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, votre jeune frère ne descend pas avec vous et vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté des paroles de mon Seigneur. » Donc il raconte l'histoire, je vais aller un peu plus loin. Et à la fin, il a dit... Si vous me prenez encore celui-ci, c'est Jacob qui dit ça, si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, moi, Yehuda, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, mon notre père. Car ton serviteur répondit pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois pas l'affliction de mon père. C'est la preuve d'une réelle repentance de Yehuda. C'est qu'il est capable de prendre la place de Benjamin pour être esclave à vie de Joseph. En fait, Joseph voulait les éprouver. Vous avez vu qu'il était ému de compassion, que plusieurs fois il fallait qu'il sorte parce qu'il pleurait. Mais il ne peut pas dire comme ça, d'un revers de main, ah, je vous pardonne. Il n'a pas pu le dire, il a dit d'abord, je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre. Notamment Yehuda qui l'avait vendu, hein, c'était lui qui l'avait vendu. Je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et il a vu qu'il y avait, par rapport à ce qui s'était passé, qui est quand même au Moyen-Orient, vendre son frère comme esclave, ou de tuer son frère, c'est quelque chose de terrible, c'est impardonnable quasiment. Et là, Joseph a testé. Il a testé ses frères, et il a testé surtout Yehuda, qui était le chef, enfin qui était lui qui était quasiment chef. Il savait que Ruben n'était pas trop coupable. Donc c'est pas lui qui l'a testé, c'est surtout les autres, Siméon qui est resté en prison quand même, il les a achetés en prison, et surtout Yehuda. Alors pourquoi je vous parle de Joseph? Pourquoi je vous ai dit que c'était une figure du Messie? Vous savez que Yeshua, Jésus, est venu parmi les siens, parmi ses frères. Et il a été vendu aussi. Bon, pas le même prix, hein, pas 36 clés d'argent. Là, c'était 20 cycles. Pourquoi il a été fait? Alors, bien sûr, j'ai oublié l'essentiel. Pourquoi c'est arrivé cette histoire-là? Parce que Joseph devait sauver le monde. Quand je dis devait sauver le monde, il n'a pas sauvé que l'Égypte. Il a effectivement commencé par l'Égypte, mais quelque part, il a sauvé le monde, puisque tous ceux qui étaient des pays alentours sont venus en Égypte chercher du blé. Donc c'était un bien, c'est ce qu'on lit après, alors on va quand même le lire. Joseph, ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, s'écria « Faites sortir tout le monde ». Donc il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'Égyptiens là, c'était entre Hébreux. Il ne resta personne avec Joseph, et quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent quand même, donc ça veut dire qu'il éleva la voix un peu fort. Et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Première question, c'est « Mon père vit-il encore ?» Je ne sais pas pourquoi il la pose, parce que Yehuda lui a pas arrêté de lui dire que s'il ne ramène pas Benjamin, son père mourra. Donc, « Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant que vous ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. C'est donc par vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz de venir. » Je résume. Donc la cause, Joseph même dit, effectivement, il s'est passé ça. J'ai voulu voir si vous aviez changé. Mais c'est pas vous qui l'avez fait, c'est Dieu qui l'a fait en fait. Dieu est souverain. Toujours la souveraineté de Dieu, c'est qu'il n'arrive rien par hasard. C'est Dieu qui a permis ça pour que je puisse vous sauver. Donc Yosef, image du Messie, c'est l'image de la première venue du Messie. Le Messie, on l'appelle fils de Joseph. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans le judaïsme actuel, des rabbins parlent des deux images du Messie. Je ne savais pas qu'ils avaient reconnu la deuxième. C'est Messie, fils de David, et Messie, fils de Joseph. Le Messie, fils de David, c'est celui qu'ils attendaient à l'époque du Second Temple, quand Jésus est arrivé. Et ne pouvaient pas le reconnaître, parce que celui qu'ils avaient devant eux, c'était le Messie, fils de Joseph. Pas Joseph, le mari de la mère de Jésus, de Marie, Marie de Marie, mais Joseph, celui-ci, le Joseph d'Égypte. Ils n'ont pas reconnu. Alors, quel est le fils de Joseph, le Messie fils de Joseph? Vous connaissez Isaïe 53, c'est le Messie souffrant, c'est celui qui va souffrir, qui va être frappé, qui va pour sauver son peuple, et pour non plus sauver son peuple seulement, mais sauver l'humanité. Joseph a quand même quelque chose de... Dans l'histoire biblique, dans les patriarches, il y a quand même quelque chose de plus que Jacob, que même Yehuda et tout ça, les 12 tribus, c'est que lui, il est international. Joseph est international. Ses enfants ne sont pas juifs. Ephraïm Manassé, son fils d'une fille de prêtre égyptien, donc rien de plus... de plus pas juif que ça, quoi. Joseph, c'est le salut pour les nations. C'est celui qui va sauver Israël, puisqu'il a sauvé Israël quand même, et qui va sauver les nations. Joseph, c'est, on peut le lire dans Luc 4, on va revenir dans la Nouvelle Alliance, Luc 4, reprendre ce passage-là qui me paraissait important. Au verset 14, Luc chapitre 4, verset 14. Yeshua, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Puis il enroula le livre et remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Vous imaginez la réaction ? Parce que cette prophétie d'Ésaïe, c'est la prophétie messianique en disant, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a messie. Oindre, ça veut dire messie, hein, pour annoncer. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que Jésus s'est arrêté, il a tronqué, il a fait ce que je ne veux pas faire, c'est de prendre un morceau du passage et pas le lire entièrement. Parce que si vous le lisez entièrement, il se passe autre chose. Si vous le lisez entièrement, il a oublié quelque chose, Jésus. Hein ? Non, il ne l'a pas oublié, mais volontairement, parce que ce n'était pas le sujet. Parce que la révélation messianique était simplement celle du fils de Joseph. C'était l'année de grâce. Et l'année de grâce, ça dure. Hein. L'année de grâce, on en bénéficie encore. La grâce, pour nous, païens, qui ont cru que Jésus était le Messie, mais aussi la grâce pour Israël. Après, il arrivera, dans un second temps, le Messie, fils de David, bien que Yeshua, dans sa généalogie, était aussi fils de David, puisque c'était le Messie, parce que c'est le même. C'est le même, celui qui est arrivé il y a 2000 ans. Pour nous, chrétiens, nous croyons que c'est le même qui reviendra, je ne sais pas quand, mais il reviendra. Alors pour ceux qui disent quel est le passage qui manque dans la révélation du Messie, on peut le lire dans Ésaïe 61, hein, puisque il est marqué que c'est dans le rouleau d'Ésaïe, donc on peut le lire. Ésaïe 61, il est dit quoi ? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébins de la justice, une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Donc il y a une promesse derrière ça sur la restauration de Sion. Nous sommes dans l'année de grâce. Nous y sommes encore. preuve du contraire, nous y sommes encore. Je n'ai pas dit que la grâce va cesser. La grâce est éternelle. Je ne suis pas dispensationniste. Pour moi, la grâce de Jésus est éternelle. Elle était avant Jésus, elle était après Jésus. La grâce du Messie est éternelle. Mais il arrivera un temps où le Messie va changer d'aspect. Pour ceux qui n'auront pas cru en lui, pour ceux qui ne vivent pas selon les principes de Dieu. Le fils de David va revenir. Ésaïe 63. J'ai perdu Ésaïe. Hein? Ouais, mais voilà, c'est sur Ésaïe 63. C'est quoi ce jour de vengeance? Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, donc c'est bien le Messie, hein, celui qui a sauvé, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Car j'étais le seul à pousser le pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider, j'étais étonné. Et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans la fureur et je les ai répandus leur sang sur la terre. On est loin, loin du petit Jésus dans la crèche, là. Je me souviens une fois, j'avais. Première fois que j'avais été en Israël, il y a plus de 30 ans, j'avais une sœur chrétienne. Qui m'avait partagé à Jérusalem, on était à Jérusalem, et qui m'a une vision qu'elle avait eue. Elle nous en avait parlé. Ça, à l'époque, j'étais jeune, ça m'avait un peu choqué. Une vision qu'elle avait eue sur les lieux saints où Jésus a été crucifié, etc., etc. Jérusalem, il y en a partout. Elle m'a dit, j'ai vu quelqu'un, style Rambo, vous voyez, Rambo avec des trucs, des armes plus grosses, hein, qui arrivait à Jérusalem et qui lui a dit « Je suis Yeshua et je reviens pour faire justice à mes élus. » Elle-même a été choquée, c'était une vision comme ça, hein, et elle a dit ouais, on est loin quand même hein, de celui qui tend la joue. Pourquoi ces deux messies quoi? Pourquoi ce messie Ben Yosef qui se sacrifie pour le salut du peuple, pour son péché, pour nous sauver de notre péché? Mais le rôle du messie, c'est ça. C'était déjà sauver son peuple du péché, mais aussi d'annoncer la Torah, d'annoncer les lois de Dieu à toute l'humanité. C'est un peu ce qu'a fait Joseph, un peu. C'est qu'il a étendu à l'humanité la bénédiction de Jacob. Une année de grâce, un jour de vengeance. Ne vous trompez pas sur la nature du Messie. Le problème de l'Église, je dirais en manière générale, commencez par moi, hein, c'est que Jésus, il est bon, très bon. Il pardonne tout. Et le problème de l'Église aussi, c'est qu'on a tellement déformé l'image initiale du Messie que son peuple, que ses frères, ne peuvent plus le reconnaître. Comme les frères qui sont arrivés devant Joseph. Joseph, il a tout de suite grillé que c'était ses frères, mais les autres, ils l'avaient sous les yeux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Il faut pas oublier que quand il a été vendu en esclave, il a été vendu nu, puisqu'il lui avait arraché sa tunique. Donc sous la tunique, ils n'avaient rien à l'époque. Hein. Donc il était vendu nu. Parce qu'ils avaient dépouillé la tunique pour la donner à Jacob avec du sang d'un bouc. Et là, c'est pareil. Qui c'est qui s'est fait dépouiller sa tunique? Qui se l'est fait tirer au sort? Et là, il arrive, le peuple arrive devant, enfin, les frères arrivent devant Joseph. Qu'est-ce qu'ils voient? C'est un gars habillé avec de l'or, sûrement le truc égyptien avec le petit serpent au-dessus, maquillage à la Cléopâtre. Ils en étaient loin du Joseph qui était parti tout nu et jeune. On en était loin. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? Jésus, comme selon sa coutume, allait à la synagogue le jour de Shabbat. Il avait sûrement le talit, le châle de prière, la kippa, les téphilines, c'est les rubans de cuir qu'on a autour des bras et puis le petit cube qu'on a sur la tête. Voilà comment était Yeshua. C'était le Messie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Un Jésus américain qui plane à 2 mètres de haut, qui mange du porc, qui dit bah, la loi, ça ne sert plus à grand-chose, c'était bon pour les Juifs. Quelle image donnons-nous de Jésus au peuple juif? Normal qu'ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'il est dit dans Deutéronome, j'ai plus le passage exactement, il est dit, si un prophète vient vers vous, qui fait des miracles absolument extraordinaires, ce que Jésus a fait, mais qui vous dit, abandonnez la loi, alors vous prenez des pierres et vous le lapidez, parce que c'est un faux prophète. Bien sûr, Jésus n'a jamais dit d'abandonner la loi. Il a dit dans Matthieu 5, je suis venu non pour abolir, mais pour établir, pour accomplir, pour annoncer aux nations ce qui était réservé qu'à Israël, l'annoncer aux nations, mais avec quelque chose de bien, c'est voici les jours viennent bientôt où je ferai une alliance nouvelle avec mon peuple, Israël et Juda, que j'inscrirai ma loi dans leur cœur. Et on a maintenant ce que Israël n'a pas su faire, puisqu'ils n'avaient pas la loi. Ils avaient la loi, mais ils ne pouvaient pas l'accomplir vraiment avec le cœur, parce que nous, on a la force de pouvoir le faire. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le fils de David revient. Je ne vous parle pas du jour de l'Éternel. Vous l'avez, pour ceux qui veulent le lire chez eux, c'est Zacharie 12. Oh si, j'en parle, parce que ça fait partie de la nouvelle... C'est pas la nouvelle d'ailleurs, c'est la révélation du Messie. Tout ça, c'est des passages de l'Ancien Testament. Hein. Zacharie 12. Soyons fous. Quand il est dit qu'il fera de Jérusalem une pierre pesante parmi les nations... Au verset 8, 12, verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David. Là, il est toujours parlé de la maison de David, puisque c'est le Messie, fils de David, qui arrive. et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadad-Idrom dans la vallée de Megiddo. Un esprit de grâce et de repentance, de supplication, ils retourneront et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est Joseph qui dit, je suis votre frère, celui que vous avez vendu. Et ils le reconnaîtront. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec deux chapitres plus loin. Le jour de l'Éternel. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, combattra ses nations comme on combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Zazel, et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il n'y aura du froid et de la glace, ce sera un jour unique, connu uniquement de l'Éternel. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? Quand est-ce que tu viendras établir le royaume d'Israël ? Il ne vous appartient pas de savoir les temps et les moments, car Dieu seul sait le jour de mon retour, le jour de ma venue. Dieu seul le sait. Et là, il s'écrit, c'est un jour unique, connu uniquement de l'Éternel. Il ne fera ni jour ni nuit, et vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem, écouleront moitié vers la mer orientale, vers la mer morte, et moitié vers la mer occidentale. Il sera ainsi été et hiver. Et c'est là que c'est important. L'Éternel sera roi de toute la terre, et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. En hébreu, en ce jour-là, c'est le schéma Israël. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, et le Seigneur est unique. Et là, c'est écrit, l'Éternel sera le seul Éternel, mais cette fois-ci, pour toutes les nations. Et plus loin, il est dit que le temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Que cette grâce n'est pas réservée qu'à Israël, elle est réservée à tous. Nous devons, il me paraît important d'avoir cette vision d'ensemble, vous allez me dire, bon, c'est de la théorie ça, cette vision d'ensemble du Messie, pour équilibrer, la grâce c'est bien. C'est sûr que là où péché abonde, la grâce surabonde, c'est écrit comme ça. Mais il faut aussi être sûr que l'Éternel n'est pas celui qui a changé d'avis. Ce n'était pas le gars super strict avec le peuple juif et devenu, en vieillissant, tout cool avec les nations. Vous avez vu qu'il revient pour châtier les nations, celles qui monteront contre Jérusalem, mais châtier aussi ceux qui n'auront pas cru au Messie Ben Yosef. C'est pour ça qu'ils disent que les temps tardent. Dieu veut que tout homme parvienne à la repentance. Le temps tarde, non pas que Dieu tarde, mais il veut que que tous parviennent à la repentance. Et aujourd'hui, si Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez la voix, n'endurcissez pas son cœur. Il y a une année de grâce. Cette année de grâce, on voit qu'elle commence à toucher à sa fin. Bien que la grâce soit éternelle, mais il va un moment falloir payer l'addition. Et quand je vois de quelle vitesse les nations se vautrent dans l'anti-loi, dans l'anti-Torah, dans tout ce qui est les 10 commandements, on ne veut plus en entendre parler. Tu ne commettras pas d'adultère. Il y a des publicités partout sur les bus, des sites de rencontres. Tu ne tueras point. On parle de l'avortement. On arrive à un stade où dans Daniel, il n'est pas parlé de l'antichrist, il est parlé de l'impie. Et l'impie, ça veut dire l'anti-Torah. L'anti-Torah, c'est celui qui fait disparaître le calendrier, qui change les temps et qui change aussi la loi. Tout ce qui est bien sera mal, tout ce qui est mal sera bien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et forcez-vous de rentrer dans ce repos. Il y a un repos pour les enfants de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que oui, c'est vrai, tu t'es révélé, Seigneur, une fois et tu reviens, Seigneur, avec force et puissance. Non plus cette fois-ci pour sauver, mais pour juger. Merci, Seigneur, parce que oui, nous voulons avoir un esprit de grâce et de supplication, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Que nous soyons, Seigneur, que nous ayons une bonne vision de qui tu es, Seigneur. Et comment, Seigneur, tu as sauvé ton peuple en prenant sa place. Que tu nous as non seulement sauvés, mais tu nous as donné aussi la force de résister au péché, la force de nous sanctifier, la force de vivre selon tes ordonnances, Seigneur, de vivre selon ce qui est bon, juste et parfait. Merci, Seigneur, parce que en toi, nous avons tout pleinement. Si nous manquons de quelque chose, tu es là pour nous soutenir et pour nous donner ce qui nous manque, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un esprit bien disposé et une bonne volonté, Seigneur. Donne-nous un cœur pur, Seigneur, parce que c'est toi qui fais le vouloir et le faire. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, pour que, oui, Seigneur, c'est que ils aient, Seigneur, le zèle de te suivre, le zèle de s'accrocher à toi, Seigneur, parce que tu es le seul rocher, le rocher de notre salut, Seigneur. Et je veux te bénir pour cela. Dans le nom de Jésus, amen. Bon dimanche.